L'amour impossible, deuxième partie, chapitre 5. Explication. Monsieur de Maulévrier était resté anéanti sous l'accablante parole de madame de Gesvres. « Est-ce que vous êtes souffrante ce soir, ma chère ? » était venue dire à l'oreille de la marquise la vicomtesse de Nelzy, qu'il avait aperçu parler à monsieur de Maulévrier avec une physionomie douloureuse. Et, déjà rappelée au rôle de toute sa vie, la marquise s'était levée, souriante, et était allée causer avec la vicomtesse, près de la cheminée, au feu de laquelle elles tendirent la pointe de leurs pieds chaussés de satin. Maulévrier demeura donc sur le canapé, en proie à la rage d'une déception sans bornes, frappé au cœur de sa vanité comme de son amour, et traversé de part en part. Madame d'Anglure, qui l'avait quitté avec tant de brusquerie et qui avait suivi son mouvement et l'expression de ses traits pendant qu'il parlait à madame de Gesvres, devint plus pâle que lui en voyant le changement soudain qu'avait produit en toute sa personne le mot dit à voix basse par la marquise. La jalousie revint vite à ce cœur déchiré. Mais alors, débarrassée de tous ses doutes, elle y revint avec une inébranlable certitude. Ce qu'il y avait d'insupportable dans les sensations de monsieur de Maulévrier, c'est que ces sensations se combattaient, c'est qu'il ne pouvait s'abandonner franchement au mouvement qui, produit par une autre femme que madame de Gesvres, l'aurait tout d'abord emporté. Il ne savait s'il devait la plaindre, la mépriser ou la haïr. Il y avait des motifs pour tout cela dans madame de Gesvres. Seulement, quand le cœur était poussé à l'un de ces trois sentiments, voilà qu'au même instant les deux autres s'élevaient pour lui faire obstacle et jeter cette chose naturellement empêtrée, le cœur d'un pauvre homme, dans un incroyable embarras. Alternative extraordinaire et des plus cruelles. Quand le mépris était près de tomber comme la foudre sur cette créature de rubans et de petites mines, indigne, après tout, d'un amour sérieux, la pitié pour cette âme impuissante, pour cet esprit qui sentait bien où est la vie et qui l'avait cherché avec tant d'indépendance dans ces relations que le monde condamne, la pitié arrêtait le mépris. Femme sans unité, aussi étrange que la chimère antique, Protée, caméléon, le diable en personne, c'était la plus grande tourmenteuse d'âme qui eût peut-être jamais existé. Ce n'était ni précisément un homme, ni précisément une femme, car alors on aurait su à quoi s'en tenir. On eût arrangé ses sentiments en conséquence. Eh bien, c'eût été un ami si ce n'eût pas été une maîtresse. Mais, ami, maîtresse, rien des relations ordinaires de la vie n'était possible avec cette femme, et n'était impossible non plus. On y perdait son cœur, on y brûlait son bonnet. Les plus habiles s'y trouvaient pris comme les plus tendres. Bien des hommes avaient essayé, bien des esprits, abusés par l'histoire, en avaient voulu faire, pour le siècle, une espèce de Ninon de l'enclos. Fatigué d'un amour inutile, il s'était rabattu à l'amitié. Mais, quand l'amitié était invoquée, la câline et capricieuse femme se mettait à prendre de ces irrésistibles airs de maîtresse qui étaient, hélas, son unique façon de se livrer. Et si l'on s'arrêtait à ces airs-là, elle les changeait tout à coup en manière d'amitié si touchante qu'elle pouvait jeter dans une rage atroce, mais qu'elle ne donnait pas le courage qu'il aurait fallu pour se brouiller. Entrelacement épouvantable. Liens dans lesquels on se roulait désespérément pour se garrotter un peu davantage. Arrivé à cette intoxication de sentiments qui tenait du charme, il n'y avait qu'un moyen violent d'en sortir à son honneur, c'était de tuer la sorcière, d'étouffer cet impatientant génie, cet Attila femelle en robe tombante. Malheureusement, à une certaine hauteur sociale, on ne tue pas les femmes à Paris. On y comprend très bien qu'une passion qui pousse à tuer la femme qu'on aime est de la puissance. Mais c'est de la puissance au service de quelqu'un, cela sent sa domesticité. Et dans cette société vaniteuse, nul ne veut se proclamer inférieur. Aussi, quand il n'y a plus que ce remède pour les gens bien élevés, ils le voient, mais ils ne l'emploient pas. Et la civilisation les récompense de cette modération pleine d'élégance en éteignant peu à peu cet amour qui retombe sur lui-même, vaincu par l'obstacle éternel. Des roses qui vivent un jour, les passions malheureuses, dans une société avancée, sont de beaucoup les plus fragiles. Quand donc le cœur a bien tempêté, comme la mer au pied du roc qui ne bouge, comme la mer, le cœur se retire. Mais la nature persévère plus que l'homme. La mer revient et le cœur pas. Monsieur de Maulévrier en était-il arrivé à ce moment dans ses passions d'homme civilisé? On l'eût dit à le voir, tout défait encore de l'impression que venait de lui causer la marquise, se lever avec presque autant de légèreté qu'elle et aller trouver Madame d'Anglure à l'autre bout du salon, immobile et droite comme un camée antique jauni par le temps. La malheureuse femme, qui pouvait à peine articuler un mot, l'avertit qu'elle voulait sortir, prétextant un de ces malaises qui sont aux ordres de toutes les femmes. Monsieur de Maulévrier devina dans ses yeux et dans la convulsion d'une bouche qui s'efforçait de sourire l'effroyable scène qui l'attendait. C'était la millième de l'espèce. Il était déjà bronzé à ce jeu. À peine furent-ils en voiture que les pleurs commencèrent à couler. Ce furent des étouffements de larmes, des torsions de cou et de bras, des plongements de front dans les mains crispées. Tout cela perdu dans l'obscurité, dans le silence. Ce silence précurseur des tempêtes. Maulévrier les voyait, les entendait, quoiqu'il affectât de ne les voir ni de les entendre, résolu à laisser venir la foudre sans en provoquer les éclats. Résolu aussi à ne plus calmer ces orages apaisés si bien naguère, quand il était soutenu par le but qu'il croyait atteindre en jouant l'amour avec la comtesse. Pour lui, la lassitude avait succédé à l'intérêt. Il était dans cette situation égoïste, furieuse et amère qui fait de l'âme la plus noble une bête féroce quand on l'ennuie. Il souleva la glace, et pendant qu'il sentait se gonfler de sanglots à son coude le flanc de la femme qui pleurait par lui et pour lui, il se mit à respirer indifféremment l'air de la nuit, et à suivre, dans le mouvement de la voiture, cette ligne grise de maison qui semblait fuir. Ils roulèrent ainsi pendant assez de temps, Madame d'Anglure demeurant à l'extrémité de la rue de Varennes. Pas un mot ne fut échangé. Quand ils furent arrivés et qu'il fallut descendre, Monsieur de Maulévrier offrit sa main à Madame d'Anglure, mais comme elle ne la prenait pas, il remonta à demi dans la voiture d'où il était descendu, et il s'aperçut que la comtesse était évanouie. Cet évanouissement avait assez mauvaise grâce aux yeux des valets, qui ne manquèrent pas de se faire des signes en aidant Monsieur de Maulévrier à emporter Madame d'Anglure jusque dans son appartement. Là, ses femmes la mirent dans un grand fauteuil et lui firent respirer des sels. Ses soins la rendirent à la conscience de sa douleur. Comme une souple couleuvre qui se redresse du sein de la neige qui l'a d'abord engourdie, elle se souleva dans son burnous de cachemire blanc qu'on avait roulé autour de ses épaules nues, et en femme qui n'a plus rien à ménager dans sa dignité personnelle et de sa considération aux yeux des autres, elle dit qu'on la laissa seule avec Monsieur de Maulévrier. La pendule marquait 1h30 du matin. Jamais Monsieur de Maulévrier ne s'était trouvé à une pareille heure dans l'appartement de Madame d'Anglure, du moins à la connaissance de ses gens. « Ah, vous m'avez trompé, Rimbaud !» s'écria-t-elle. « Vous ne m'avez pas dit la vérité, quoique je l'eusse bien deviné. Pourquoi ne m'avoir pas avoué plus tôt que vous ne m'aimiez plus et qu'une autre m'avait pris votre amour? C'est elle, la marquise, une infâme coquette, qui ne vous rendra pas heureux comme je l'ai fait, qui ne vous aimera pas comme moi, Rimbaud, et qui ne mourra pas comme moi, quand une fois vous ne l'aimerez plus. » Elle avait d'abord voulu parler d'une voix assurée, mais les pleurs étaient venus peu à peu, et des sanglots qu'elle ne contint plus éclatèrent. Monsieur de Maulévrier marchait dans la chambre à grands pas, la main droite ramenée au flanc gauche, cette belle pose du portrait de Talma dans Hamlet. Hésitant encore à jeter sur cette tête dévouée et désolée le mot qu'elle savait, mais qui, dit par lui, allait l'écraser. « Pourquoi ne me répondez-vous pas, Rimbaud ? » fit-elle. « Me méprisez-vous donc tant que vous ayez résolu de ne rien avouer ? Pensez-vous pouvoir m'abuser encore par votre silence, comme vous le faites depuis un mois avec ce langage qui me jetait dans l'âme un bonheur rempli d'épouvante ? Car je ne sais quoi, me disait que tout ce bonheur était faux. Vous m'avez trompé par pitié, Rimbaud. Mais je voulais votre amour, je ne voulais pas votre pitié. Hélas, il fallait bien que j'apprisse, un jour ou l'autre, ce que vous deviez être impuissant à me cacher. La marquise aussi est jalouse. J'ai vu sa jalousie aujourd'hui. J'en ai joui d'abord, mais, grand Dieu, qu'ensuite j'en ai été punie. Vous avez eu peur en la voyant jalouse. Vous avez eu peur de la faire souffrir plus que moi. Vous avez sacrifié celle que vous n'aimiez plus à celle que vous aimez. C'était juste. Je ne vous le reproche pas, Rimbaud. Mais je me demande seulement comment j'ai fait pour vous déplaire et pour que vous cessiez de m'aimer. » Ainsi, les paroles de son désespoir ne démentaient pas toute sa vie. C'était toujours la femme esclave, la femme faite pour l'amour, l'amour vrai, et comme il ne se rencontre plus que dans quelques cœurs exceptionnels, dans quelques esprits que le monde insulte, car ils sont sans puissance. Si M. de Maulévrier avait été désintéressé vis-à-vis de Mme d'Anglure, il eût admiré l'abnégation de cet amour résigné, mais dans sa position, il n'était pas juste. Caroline lui parlait de la jalousie de la marquise. C'était comme une voix ironique qui le raillait après tout ce qui s'était passé. Son succès manqué et rappelé de cette façon innocente le rendit implacable. Et lui, qui se taisait par une délicatesse plus du monde encore que du cœur, se mit à dire les choses, haut et clair, à l'infortuné. « Puisque vous voulez la vérité, Caroline, vous avez raison. J'aime Madame de Gesvres. C'est-à-dire que je l'ai beaucoup aimée, car je crois cet amour affaibli déjà dans mon cœur. Mais ne parlez pas de sa jalousie. Ne parlez pas de tout ce dont vous parliez à l'instant. Elle n'est pas jalouse, car elle ne m'a jamais aimée, car elle ne s'est jamais livrée, car tout l'amour que j'ai eu pour elle n'a jamais pu entraîner le sien. » Elle le regarda avec des yeux bien ronds et bien incrédules, en secouant tristement la tête, imaginant sans doute qu'il mentait encore. Elle ne comprenait pas qu'une femme pût ne pas aimer l'homme dont elle était folle, son Rimbaud. « Vous ne me croyez pas, Caroline ? » fit M. de Maulévrier, qui ne voyait pas d'où venait cette incrédulité adorable. « Oh, vous ne connaissez pas la marquise ! » Vous la jugez comme on la juge dans le monde. Vous la croyez plus que légère, une femme aux amours faciles et rapides, elle dont la froideur est invincible et dont le cœur ne peut plus désormais être atteint. Vous ne savez pas à quel point elle est malheureuse, au fond, de ne pouvoir trouver dans la vie un de ces intérêts que vous lui supposez pour moi. Vous la calomniez indignement dans sa conduite, et elle n'a pas le moindre bonheur qui la venge de vos calomnies. C'est une femme digne d'autant de pitié que d'estime. Ne l'insultez pas comme vous le faisiez tout à l'heure, car si elle a été votre rivale, ce n'a jamais été que dans mon cœur. » Il s'arrêta, éprouvant une âpre jouissance à rendre justice à la femme qui n'avait jamais eu d'amour pour lui, devant celle qui le croyait plongé dans les félicités d'un amour partagé. Il s'arrêta, effrayé aussi du mal qu'il venait de faire à Madame d'Anglure. « Assez, Rimbaud !» lui cria-t-elle. Prenant cet éloge de Madame de Gesvres pour l'expression d'un amour fanatique et désespéré. « Vous êtes la dupe d'une coquette sans âme. Ne pouvez-vous m'épargner l'humiliante douleur de vouloir la défendre contre moi ?» L'effort de cette colère soudaine de cet incoercible dépit dans une créature si douce d'ordinaire, ébranla ses organes déjà malades et leur porta un funeste coup. Ce soir-là, Madame d'Anglure sentit le sang lui monter dans la poitrine. La conscience de sa mort prochaine apaisa bientôt sa colère. « Pardonnez-moi, Rimbaud, » fit-elle en tendant à Monsieur de Maulévrier cette main qu'il prenait avec tant de transport autrefois. « Pardonnez-moi ce que j'ai dit, en considération de ce que j'ai souffert ce soir. Vous serez bientôt quitte de mes plaintes. Pour le temps qui me reste à vivre, je ne veux pas vous offenser, vous que j'aime encore, dans la femme que vous m'avez préférée. » Chapitre 6. L'impénitence finale. 5 jours après cette scène, Madame d'Anglure était à l'agonie. Les vomissements de sang étaient revenus avec une énergie effrayante. Le médecin ne conservait nul espoir. Monsieur de Maulévrier, qui se trouvait, grâce à ses aveux, dans une position vraie vis-à-vis de Caroline, n'eut point de résistance à vaincre en lui-même pour soigner cette pauvre mourante qu'il avait si éperdument aimée, et pour entourer ses derniers moments des formes de ce dévouement extérieur qui, après l'amour, fait illusion encore au cœur tendre. Il resta, autant qu'il le put, auprès du lit de la comtesse. Il n'avait plus à feindre un sentiment qui le gênait. Au contraire, il pouvait être franc dans l'expression de celui qu'il éprouvait, car il en éprouvait un alors. Il s'attendrissait sur cette destinée qu'il avait perdue. Pitié que l'amour-propre empêche d'être amer, et à laquelle, pour cette raison, sans nul doute, le cœur de l'homme sait se livrer avec abandon. Elle, qui finissait la vie comme elle l'avait commencée, par un seul amour, jouissait tristement de l'attendrissement de Monsieur de Maulévrier et lui souriait au milieu de toutes ses souffrances avec les larmes de la reconnaissance et du désespoir dans les yeux. Elle ne parlait plus en termes irrités de la marquise, de cette voleuse d'amants qu'elle aurait désiré parfois dénoncer à toutes les femmes. Et pourtant, les aveux de Maulévrier ne l'avaient point persuadée. Elle croyait qu'il était aimé de la marquise et qu'il l'aimait assez pour avouer son amour et le proclamer malheureux, pour se vanter de ses rigueurs. Elle voyait là un généreux mensonge. Elle n'était pas une observatrice de premier ordre, cette suave enfant qu'ils avaient appelée la belle et la bête. Front charmant, mais bien parfaitement fermé à la lumière. Elle ne comprenait guère que ce qui était simple, et juger les autres par elle-même. Une femme de la complication de Madame de Gèvres ne pouvait pas tomber sous ce sens étroit. Les relations de Monsieur de Maulévrier avec Madame de Gèvres étaient expliquées par cette nature toute droite qui était venue comme une fleur en pleine terre à la campagne. « Vous vous fatiguez et vous vous ennuyez, mon ami, » disait-elle à Monsieur de Maulévrier quand elle le voyait passer des heures entières près de son lit et en silence. Car il était défendu de faire trop parler cette poitrine si souvent en sang. « Voilà que toute votre vie est changée, parce que je me suis imaginée d'être malade. Rimbaud, je ne veux pas de cela. Vous êtes délicat et bon pour moi, je vous en remercie. J'en suis même heureuse au milieu de tout ce qui m'afflige et me fait mourir. » Mais je ne veux pas qu'où l'amour n'est plus soit les sacrifices de l'amour. On n'en doit pas tant à ce qu'on n'aime plus. On ne doit même qu'à ce qu'on aime. Et la marquise, ne faites pas ce mouvement et écoutez-moi. A droit de se plaindre de l'abandon dans lequel vous la laissez. Quittez-moi donc souvent pour elle. Allez la voir. Et cependant, ajoutait-elle avec une expression irrésistible, « Revenez ici, Rimbaud, puisque la pitié vous y ramène. Je n'ai pas la force qu'il me faudrait pour me priver de ce dernier bonheur. » Monsieur de Maulévrier n'obéissait pas toujours à Madame d'Anglure. Une affection si profonde et en même temps si douce lui donnait le courage de résister à la malade dévouée, qui, l'amour au cœur, l'envoyait ainsi voir sa maîtresse. Cette bassesse sublime le touchait, et parce qu'il était touché, il restait, captivé davantage. Il restait, comparant cet amour à l'impuissance d'aimer de la marquise, et celle-ci, dont le noble esprit était fait, du moins pour tout comprendre, enviait, avec un regret plus inconsolable que jamais, le sentiment dont elle était privée. Quand M. de Maulévrier lui racontait tout ce que ce sentiment inspirait à Caroline, de touchant, d'aimable et de bon. Et comme, en dehors des mille vanités de la femme qui la faisait si souvent extravaguer avec tant de charme, Madame de Gesvres, à force de bon sens, finissait par avoir un cœur excellent. Elle apprécia dignement la conduite de Madame d'Anglure, et elle se sentit vivement attirée vers la malade, quoiqu'elle crût, illusion analogue à celle de Caroline, que M. de Maulévrier, qu'elle avait pris au mot dans la dernière comédie qu'elle avait jouée pour exciter sa jalousie, était revenu à celle qu'il avait si longtemps aimée. Seulement, quelle que fût alors sa sympathie, elle savait bien qu'avec les convictions de Madame d'Anglure et ce qui s'était passé entre cette dernière et M. de Maulévrier, elle ne pouvait convenablement se présenter chez Caroline et lui témoigner l'intérêt sincère dont elle se sentait animée. Bizarre chose que les relations humaines, dans lesquelles les meilleurs sentiments sont très souvent inexprimables, et ce qui serait vrai, impossible. Plus l'état de Madame d'Anglure empirait, plus Madame de Gesvres, qui admirait la douce splendeur qu'un amour naïf et grand projetait sur les derniers moments de celle qu'elle avait autrefois protégée et défendue, souffrait de se sentir éloignée de la comtesse. Rendue à ses sentiments naturels par ce que M. de Maulévrier lui racontait de la mourante, elle pensait parfois qu'elle ferait mieux comprendre à Madame d'Anglure que jamais elle n'avait aimé d'amour M. de Maulévrier, et que cette assurance franchement donnée mêlerait peut-être quelque douceur aux angoisses de cette agonie. Mais l'idée que M. de Maulévrier, qu'elle croyait revenu de bonne foi à ses premiers sentiments pour Caroline, n'avait pu calmer cette âme agitée et lui enlever ses doutes cruels, la retenait toujours, et elle ne serait point sortie de cette incertitude si M. de Maulévrier n'était venu, un soir, la chercher en toute hâte pour la conduire chez la comtesse, qu'il avait, lui dit-il, demandé tout à coup avec beaucoup d'insistance et d'obstination. Elle y alla, non sans quelque trouble. En la voyant entrer dans sa chambre, Caroline lui tendit la main de la façon familière et simple avec laquelle elle lui avait apprise, à une autre époque, quand elle revint de la campagne pour s'assurer du malheur de ne plus être aimée. La comtesse était couchée sur une chaise longue, la tête soutenue par des coussins et la taille enveloppée dans des châles. Elle avait tous les symptômes d'une mort prochaine. L'œil luisant, les narines creuses, la pâleur bleuâtre. « Je vous sais bon gré d'être venu, » dit-elle d'une voix faible, mais assurée, à la marquise, qui, quoiqu'émue, s'assit près d'elle avec cette absence d'embarras des femmes du monde qui fait croire si bien à la chimère du naturel. « Je voulais vous voir avant de mourir. Vous m'avez été bonne autrefois. » Et d'ailleurs j'ai été injuste pour vous au fond de mon cœur. Si vous avez plu à Rimbaud, ce n'est pas votre faute. Si vous l'avez aimé, je n'ai pas su m'en défendre mieux que vous. Caroline, lui répondit Madame de Gesvres, comme au temps de leur ancienne liaison et avec le désir de lui causer quelque bien. Vous êtes victime d'une illusion funeste. Je n'ai jamais aimé Monsieur de Maulévrier. Oh! Fit la comtesse en secouant la tête avec une grâce souriante et triste. « Je sais tout et je suis résignée. N'essayez donc plus de me tromper. Vous aimez Rimbaud. »« Non, je ne l'aime pas !» interrompit la marquise avec une noble impatience et en jetant à M. de Maulévrier un regard plein d'éclat qui l'attestait. « Je ne l'ai jamais aimé. Qu'il le dise, moi je vous le jure. Si j'ai eu un tort avec vous, Caroline, c'est de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. »
Plus tôt comme à présent, Bérengère, je ne vous aurais pas cru, dit madame d'Anglure.
Seulement, plus tôt, vous m'eussiez trompé sans motif, et à présent, vous en avez un, dont je vous remercie. Vous voulez m'épargner du chagrin parce que je meurs.
C'est bien à vous, mais c'est inutile. Puisque je meurs, je ne regrette presque plus de n'être plus aimée.
En le laissant derrière moi, ajouta-t-elle avec un regard ineffable, il souffrira moins.
Mais, dit madame de Gesvres avec l'angoisse de ne pas être crue.
Mais, interrompit la comtesse avec une violence qui lui fit cracher le sang de nouveau.
Pourquoi cette obstination, Bérengère? Lui aussi m'a tenu le même langage que vous, et je ne l'ai pas écouté davantage. Ne tourmentez donc pas mes dernières heures par des négations et des résistances inutiles. Si je vous ai envoyé chercher, ce n'était pas pour vous adresser des reproches. C'était pour vous le confier, lui que j'aime encore. C'était pour vous recommander de bien prendre garde à son bonheur. C'était pour que mon souvenir, le souvenir d'une amie morte de chagrin à cause de vous deux, ne se mit pas entre vous et n'empoisonna point les relations d'une intimité que je vous pardonne, quoiqu'elle m'ait fait cruellement souffrir.
Ah, malheureuse enfant ! Reprit avec emportement madame de Gesvres, poussée à bout par un aveuglement si obstiné. Comment donc faire pour vous arracher cette folle croyance, pour vous convaincre de la vérité de mes aveux? Non, je n'aime pas Rimbaud. Non, je n'ai jamais été, je ne suis pas sa maîtresse. Le monde l'a dit, je le sais bien. Mais vous, que j'ai défendu autrefois contre le monde, vous savez si je ne sacrifierai jamais rien à de sots propos. Vous connaissez mon indépendance. Aujourd'hui, vous me prouvez que cette indépendance a toujours des dangers pour une femme. On la punit en se méprenant sur ses amitiés. Caroline, le monde me croit plus jeune que je ne suis. Vous aussi, vous me jugez d'après ce que vous avez de jeunesse et d'amour dans le cœur. Mais je ne vous ressemble pas. J'ai l'âme si vieille, si dépouillée. Quand j'aurais voulu aimer Rimbaud, je ne l'eusse pas pu.
Et dominée par le besoin d'être crue, que les négations de madame d'Anglure avaient si vivement irritée en elle, elle se mit à lui dire sur l'impuissance de son cœur, sur le néant de sa nature, des choses vraies, mais qui devaient demeurer incompréhensibles pour la comtesse. Entraînée presque hors d'elle-même, elle lui révéla ce qu'elle était. Elle le fit avec éloquence. Elle lui montra, une par une, ce qu'elle appelait les misères de son âme. Elle lui dit ses jalousies du bonheur des autres, du bonheur de ceux qui pouvaient aimer. Elle se plaignit de l'ennui profond, terrible, inexorable, éternel, qui frappait sa vie. Étala tout, s'insulta, fut vraie, fut naïve, elle, la grande Célimène de ce temps. Et nul doute qu'elle eût fait pitié à une autre femme que la comtesse, à une autre qu'une créature sans intelligence et tout amour. La comtesse ne comprit pas un mot de toute cette triste psychologie que le tact exercé de la marquise n'avait pourtant pu retenir. Pour cette pauvre et adorable amoureuse, dont la vocation avait été d'aimer, comme celle des roses et de sentir bon, les paroles de madame de Gesvres étaient et durent restées de l'hébreu. Elle l'écouta en la regardant avec défiance, et quand la marquise, à qui le tact revenait peu à peu devant l'incrédulité têtue de cette femme qu'elle essayait follement de persuader en lui parlant une langue étrangère, s'arrêta, vaincue et repentante d'avoir parlé, la comtesse lui dit, avec une grande sécheresse, « Vous avez certainement beaucoup plus d'esprit que moi, ma chère. Mais ce que vous me contez là est incroyable, et je ne vous crois pas. »
Adieu donc, Caroline, fit madame de Gesvres sans amertume et en se levant, car cette scène où elle s'était oubliée commençait de la fatiguer, et elle voyait dans ces airs de pardon et de générosité auxquels madame d'Anglure refusait si bien de renoncer
quelque chose de solennel et de posé qui choquait vivement son bon goût et son instinct du ridicule. Cela eût suffi pour réduire de beaucoup l'émotion que lui avait inspirée l'état de Madame d'Anglure et son amour pour Rimbaud. Maulévrier était resté silencieux pendant l'entrevue des deux femmes. Quand la marquise se leva, ses regards rencontrèrent les siens. Un imperceptible sourire de moquerie méprisante se joua silencieusement autour de leurs lèvres à tous les deux. Toujours spirituel et du monde, il ne pouvait s'empêcher de mépriser un peu cette passion aveugle, stupide, dramatique et dévouée, qui ne comprenait rien et montrait la rage de se sacrifier en mourant. Quant à la comtesse Caroline d'Anglure, elle expira quelques jours après, dans son illusion indestructible, les croyant heureux et leur pardonnant. Illusion torturante qui fut un démenti donné par elle au titre du livre si vrai qu'on appelle « Le bonheur des sots ». Chapitre 7. La vie. « Quoi, vous n'étiez pas revenu de bonne foi à Madame d'Anglure ?» dit la marquise avec un indescriptible étonnement. Ils avaient repris leur place habituelle dans le boudoir de satin jonquille, et la vie pour eux recommençait de couler, sans événements, sans aventure, dans sa monotone variété. « Non, je ne l'ai pas ré-aimé, » fit Rimbaud avec un sentiment trop triste pour qu'il s'émêlât de l'amertume. Ce fut bien fini entre nous du jour que je vous aperçus. Vous effaçâtes tout dans mon âme. Si j'ai affiché chez vous de l'amour pour cette femme qui méritait mieux que cette comédie, ce fut une fausseté pratiquée par moi pour exciter votre jalousie. C'était ma dernière ressource que j'employais. Dernière et inutile, reprit Bérengère. Le jour où vous vîntes dîner chez moi, fut pour tous les deux un jour funeste. Pour moi, il me montrait le fond de ce cœur rebelle à tout. Pour vous, il vous ôtait une dernière espérance et vous laissait un amour éternel, dit-elle après avoir un peu hésité et risquant enfin la romanesque épithète. Et comme la femme grave et compatissante se perdait toujours dans la coquette qui était si près, elle ajouta légèrement, en jouant avec les glands de sa robe de chambre, « Car enfin, monsieur, qui pourriez-vous aimer après moi ?»« Eh, mon Dieu, la première venue !» fit lentement monsieur de Maulévrier avec une majesté d'impertinence qui frappa juste sur tout cet orgueil extravasé. « Quand on n'aime plus, la première venue est plus puissante que la femme qui fut le plus follement aimée. N'eût-elle que l'attrait de la nouveauté ?»« Vous traitez l'amour comme un caprice » fit-elle furieuse. Puis, mordant ses lèvres et rattrapant le sang-froid perdu, « C'est peut-être vrai, » dit-elle, « quand on n'aime plus, mais... » Elle n'acheva pas sa pensée. Elle trouva plus simple de le regarder. La joie du sauvage, sûr de sa proie, allumait des éclairs dans ses yeux. Et la moquerie des femmes civilisées, si mêlant, faisait de tout cela quelque chose de peu agréable à contempler. « Et si je ne vous aimais plus ?» dit Rimbaud câlinement, avec une voix basse et douce, et en lui prenant la main dont il baisa les ongles rosés, mais sans appuyer. « Vous, ne plus m'aimer ? » demanda-t-elle, changeant tout à coup d'air et de contenance, et d'un ton plus curieux que dépité. « Plus du tout, » dit Rimbaud, avec un désintéressement infini et du naturel retrouvé. « Bah !» répondit-elle avec explosion. Et se retournant vivement sur la causeuse, elle lui présenta ses belles épaules, qu'elle arrondit avec bouderie, comme une objection à ce qu'il disait. Mais bouderie ou manège, tout fut inutile. « Il n'y a pas de « bas », madame, » dit Rimbaud avec calme. « C'est bien vrai que le charme est détruit. Vous voudriez vainement le faire renaître. Ce que vous avez éteint en mon âme, vous ne le rallumeriez pas. »« Vraiment ? » fit-elle. et se penchant vers lui de trois quarts, pose charmante qui lui allait à ravir, elle lui décocha un des plus divins sourires que la vanité d'une femme belle ait jamais inventé pour répondre à un défi insolent. « Eh bien, nous verrons !» Mais elle ne vit rien. Ce jour-là, et depuis, elle employa toutes les subtilités de son esprit, toutes les grâces de sa manière, toutes les ressources de son génie, tous les artifices de ses négligés du matin, toutes les ivresses d'un abandon téméraire, toutes les légèretés de flamme qui, dans le tête-à-tête, ressemblent à des caresses positives. Monsieur de Maulévrier ne démentit point sa parole. Elle ne le troubla plus. Il jouit de tout cela comme un peintre. Il en jouit aussi comme un fat. Mais l'amant évanoui ne reparut pas. Elle l'avait fatigué en trompant ses désirs sans cesse, en flétrissant un à un tous les espoirs qu'il s'était créés. Elle aurait lassé une âme de bronze, une âme romaine, et lui, comme elle, ne pouvait ressentir que l'amour comme le monde l'a fait. Parfois, en la voyant tout risquer pour reconquérir sa conquête perdue, l'idée lui vint de profiter, dans les intérêts les moins distingués, des dangers auxquels elle s'exposait. Mais il était mieux qu'un fat vulgaire. Il avait son orgueil vis-à-vis d'elle, et il ne voulait pas qu'elle pût interpréter comme un reste d'amour encore la tentative d'une possession que peut-être elle eût de nouveau disputée s'il avait essayé d'y revenir. Bientôt, comme il s'était lassé de l'aimer pour rien, elle se lassa de vouloir faire revivre un amour qui n'existait plus. Ainsi, encore une fois, leurs relations se modifièrent, mais demeurèrent aussi fréquentes, aussi intimes que jamais. Et le monde, qui avait accusé Madame de Gesvres d'avoir tué Madame d'Anglure, continua de les nommer amants, quoiqu'ils ne fussent plus que des amis. Amis étranges, il est vrai. Singulière et triste liaison, d'un charme puissant, inexplicable et empoisonné. Le mot qu'elle lui avait dit devint vrai. Après elle, il n'aima plus personne. On eût dit qu'en l'aimant, il avait contracté pour les autres la cruelle impossibilité d'aimer dont il avait été la victime. Et cependant, malgré cette épreuve, lui, pas plus qu'elle, ne prit son parti sur soi-même et ne sut donner à sa vie la dignité de l'indifférence, la fierté calme de la résignation. Avides d'un intérêt de cœur, ils osèrent le chercher encore. Leur intimité ne leur suffisait pas. Ennuyés, le jugement cruel, l'imagination exigeante, ils promenèrent partout leur fantaisie, voulant être une dernière fois heureux encore dans l'amour avant de mourir. Ils cherchèrent tous deux, pressés de revenir l'un à l'autre et de se dire ce qu'ils avaient trouvé de meilleur à aimer qu'eux-mêmes, puisqu'ils ne s'étaient pas aimés. C'était à qui de lui ou d'elle viendrait se vanter, avec le plus d'orgueil, de ressentir enfin l'amour. Mais cet amour, appelé par eux, expirait toujours dans le mépris involontaire. Et ce mépris, qui venait si vite quand ils regardaient entre les deux yeux ce qu'ils s'étaient à eux nommé leurs idoles, ne les empêchait pas de s'en reconstruire de nouvelles, qu'hélas, ils abattaient toujours. À lui, ni la beauté, ni la jeunesse, ni l'amour même, tout ce qu'il admirait le plus, ne suffisait pour remplir sa pensée. Et quant à elle, ni l'esprit, ni la renommée, ni le génie, toute chose qu'elle sentait mieux qu'un homme, ne pouvait longtemps la captiver. Il se déprenait avec la même vitesse, il se détournait avec le même dégoût. Créés à ce qu'ils semblaient l'un pour l'autre, s'il tardait à mépriser ce qu'il avait d'abord tenté d'aimer, l'autre, impatient, implacable, le poussait bientôt à ce mépris par l'ironie, l'ironie qu'ils maniaient également tous deux. Que de fois ils passèrent de longues heures dans la nuit l'un près de l'autre, flanc à flanc, les mains enlacées, couple fait, on l'eût dit du moins, pour toutes les voluptés de la vie, mais trouvant sans cesse l'esprit qui juge où ils avaient appelé la sensation qui enivre. Couple superbe et fatal, réduit à insulter l'objet de ses amours qui ne durait pas, et à rire entre soi des ridicules vus le matin dans le tête-à-tête. Affreuse comédie qu'il se donnait entre quelques baisers vides, quelques sombres et vaines caresses, par dédommagement du bonheur manqué et de l'enthousiasme impossible. Que de fois ils se dirent que pour eux, il n'y avait qu'eux cependant, mais ne s'expliquant pas par quel charme l'amour qu'ils cherchaient dans les autres, ils ne le rencontraient pas dans leur cœur, puisque leur seul intérêt dans le monde naissait quand ils étaient réunis. Ils vivaient ainsi, triste vie, sentiment sans nom parmi les hommes, relation que le monde ne comprenait pas. Plus leur espoir d'aimer une fois encore tarissait dans leurs âmes impuissantes, plus ils se sentaient étroitement liés par ce qui ne pouvait être un lien entre eux, et personne. Plus ils sentaient qu'ils n'avaient rien à se préférer. Quand lui sortait des bras d'une femme, ne venait-il pas, avec une ardeur avide, essuyer ses lèvres à ses mains de marbre que l'amitié lui tendait, et livrer à la plus spirituelle moquerie tous ses bonheurs incomplets à flétrir? Quand elle, plus coquette que les plus coquettes de Marivaux, avait prêté sa charmante oreille aux adorations qu'elle faisait naître, ne venait-elle pas, la bouche dégoûtée et les yeux mornes, poser sa tête lasse sur cette poitrine qu'elle n'animait plus? Alors, on ne sait, qui pourrait assurer de telles choses? Regrettaient-ils tous deux de n'être pas amants au lieu d'être de si étonnants amis? Et si le regret existait au fond de leur âme, excepté des douleurs bien désespérées, que peut-on tirer d'un regret? C'est ainsi qu'ils achevaient leur jeunesse. C'est ainsi qu'ils s'avançaient ensemble vers le but suprême, la vieillesse et la mort, qu'ils connaissaient déjà par le cœur, mais qu'il leur restait à apprendre par le déclin naturel de la vie, des infirmités de la pensée et des organes, et la perte de la beauté. Ils s'avançaient étroitement unis, consternés et purs, mais de la dérisoire pureté de l'impuissance. Et, dans le néant de leurs âmes, ils n'avaient pas, pour se consoler ou s'affermir, la vanité de ce qu'ils souffraient. Leur bon sens faisait fi de la poésie de la douleur, comme leur bon goût en faisait mystère. C'était toujours une femme élégante et un dandy, à l'intimité desquels le monde insultait dans de jolies plaisanteries. C'était toujours de part et d'autre la même convenance, les mêmes manières irréprochables, cette même légèreté dans la parole, grâce charmante qui n'appuyait jamais sur rien. On ne pouvait guère soupçonner ce qu'il y avait de grave, de profond, dans ces deux êtres si exclusivement occupés, à ce qu'il semblait, de choses extérieures, et dont l'esprit, à certains soirs, partait tout à coup en mille étincelles et en railleries joyeuses. Mélange bizarre dont se composait pour eux la vie, influence du monde et des habitudes sur ce que les sentiments de plus involontaires, et dont l'histoire d'une de leurs matinées, prise au hasard entre toutes les autres, donnerait une idée plus exacte que l'analyse la plus fidèle. Un matin, le marquis de Maulévrier alla chez la marquise de Gesvres, mais il ne la trouva pas à sa place ordinaire dans le boudoir Jonquille. Elle était sortie. Séduite par le temps qu'il faisait, on était au commencement du printemps. Elle était allée s'asseoir sur un banc placé à l'extrémité d'une des allées du jardin de l'hôtel de Gesvres. Elle tenait un livre et, dominée sans doute par les idées que lui inspirait sa lecture, elle ne sentait pas le fleuve de soleil qui tombait en nappe de lumière et de chaleur sur sa tête nue, sur ses mains divines dégantées et sur des épaules que le soleil même était impuissant à bronzer. « Que lisez-vous donc là ?» fit Maulévrier en s'approchant, frappé de la préoccupation de sa physionomie. C'est l'Ilia, répondit-elle. Un livre qu'ils disent faux et qui n'est que la moitié de la vérité de ma vie. Que serait-il donc si l'autre moitié s'y trouvait ? Elle parlait avec une agitation, presque les yeux durs, le front contracté, violemment belle. « Vous avez raison, » fit Maulévrier, qui ne raillait plus quand il la voyait dans cet état, car il avait appris à connaître, à ses dépens, la douloureuse pauvreté d'âme et de sens de cette femme révoltée de n'en avoir pas davantage. Lélia n'est qu'une moitié de misère. Il en est dans le monde de bien plus grande et qu'on ne voit pas. « Oui, la mienne, par exemple, » reprit-elle avec une tristesse animée. « Oui, la nôtre, car vous aussi vous en êtes venu où j'en étais. En m'aimant, vous avez gagné mon mal, et vous n'en guérirez pas plus que moi. » « Mais Lélia, mais eux, ces artistes, ces grandes imaginations, ces hautes pensées !» continua-t-elle en jetant le livre qui l'avait émue et qu'elle n'aimait que comme un fragment de miroir. « Ils ont beau souffrir, sont-ils donc si à plaindre? Si l'amour leur manque, comme à nous, n'ont-ils pas tout le reste? S'ennuient-ils comme nous? N'ont-ils pas des facultés supérieures qui leur créent des intérêts très vifs et les défendent de l'ennui et de la fatigue d'exister? Quand ils n'auraient que la faculté de parler magnifiquement ce qu'ils souffrent, cela ne les soulagerait-il pas un peu? La femme qui a fait Lélia, fut-elle Lélia elle-même? N'a-t-elle pas eu un dédommagement en se racontant avec une telle éloquence? N'y a-t-il pas aussi dans son livre des pages qui attestent qu'elle sent profondément les beautés de la nature? N'est-ce pas quelque chose, cela? N'est-ce pas de l'amour, après tout? Et qu'importe ce qu'on aime, si on aime? Oh, mon Dieu, toute la question, c'est d'aimer. Ne disait-on pas dernièrement que cette femme qui a fait ce livre avait le projet d'entrer dans un cloître? Il y a donc en elle ou des idées qui l'exaltent encore, ou des lassitudes qui entrevoient la possibilité d'un repos. Mais moi, mais nous, mon ami, qu'avons-nous? Qu'est-ce qui nous console? Qui occupe notre vie? Qu'aimons-nous? L'idée de Dieu nous laisse froid. La nature nous laisse froid. Nous n'avons que l'esprit du monde qui n'a pas un intérêt vrai à nous offrir et à qui nous n'avons rien à préférer. Esprit borné, nature finie. C'était pour nous que l'amour devait être la grande préoccupation, la grande affaire, le grand enthousiasme de la vie. Et l'amour, dans nos âmes glacées, n'a été qu'une fantaisie sans émotion ou sans noblesse. Et quand il s'est agi de nous, Rimbaud, un avortement en amitié. Ah, maudit cœur, maudits organes, ajouta-t-elle avec un mouvement de rage. Et, se jetant au cou de Rimbaud, pour la première fois, naïve et hardie comme une femme aimée et heureuse, elle chercha sur les lèvres de l'homme qui ne l'aimait plus la flamme à tout jamais absente pour elle et pour lui. « Impossible !» fit-elle accablée en laissant retomber ses bras. Rimbaud, qui savait l'empire des choses extérieures sur les nerfs de cette femme mobile qu'il fallait empêcher de se replier sur elle-même de peur qu'elle n'y trouvât le vide et l'ennui, lui conseilla, après quelques moments de silence, d'aller s'habiller pour sortir. Il était fort peu moraliste, mais quand il s'agit de faire diversion aux peines de la vie pour les femmes, leur conseiller de faire leur toilette est encore ce qu'il y a de plus profond. Elle résista. Elle voulut rester dans ses cruelles pensées. Mais, comme M. de Maulévrier sembla l'exiger, elle quitta le jardin et monta chez elle. Elle était partie à regret, pâle, sombre, crispée, insoucieuse de son cou qu'elle livrait au soleil et de sa robe mal agrafée. Elle revint souriante, épanouie, gracieuse, mise avec le goût que Maulévrier lui savait, et portant la vie, à ce qu'il semblait, avec une légèreté aussi fière que les plumes blanches qui se cambraient sur son chapeau de paille d'Italie. C'était réellement une autre femme. Elle se rassit près de lui pour lui faire boutonner ses gants chamois. Le fa orgueilleux, devenu si gibé sans les profits ordinaires de ce genre d'emploi, les boutonna avec la docilité d'une soubrette. Et pour récompense, elle lui accorda le beau privilège de poser un baiser, comme on en donne aux petites filles, sur la raie des cheveux partagés. Cela fait, ils montèrent en voiture pour aller, je crois, acheter des rubans.